跟他的。第九次镇官代表大会现在开始。
Est la plus grande figure historique de notre époque dans le sens où l'histoire implique une accumulation de choses. Enfin, Mao, c'est le général de Gaulle qui serait Clemenceau. C'est Staline qui serait Lénine. Parce que tout commence avec lui. La révolution de 1911 n'avait pas fini par une révolution concrète le moins du monde, c'est une révolution de juristes. Alors, il y a Sun Yat-sen quelque part dans l'Empire, mais pour les Chinois, Sun Yat-sen n'avait pas changé les choses. Les choses ont commencé à changer avec Mao, et depuis, ça n'a pas cessé d'être lui. Alors, il a rencontré des obstacles véritablement incroyables. Il s'est battu contre une armée très puissante. Je crois que la biographie de Mao est une des biographies les plus extraordinaires.
Jean-Luc Domnac, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer un extrait du discours de Mao Tse-tung lors de l'ouverture du 9e congrès à Pékin en avril 1969. Un discours qui est enrichi, marqué par l'insert d'un témoignage qui est celui d'André Malraux, le 6 juillet 1975. André Malraux qui a rendu visite à Mao, comme on le sait, en 1965, c'est-à-dire 10 ans plus tôt. J'aurais pu naturellement bâtir une sorte d'anthologie des analyses faites par des Français de l'évolution chinoise dans ces années-là, analyses qui sont généralement, avec le recul, marquées d'un peu de ridicule. Mais j'ai pensé que celui-ci, avec ce qu'il a de flamboyant, Clemenceau, De Gaulle, Lénine, Staline, etc., pouvait nous suffire à cet égard. Et puis Malraux, même quand il est étrange, est toujours stimulant.
On peut imaginer effectivement que Mao est le Lénine et le Staline chinois. C'est le Lénine parce que c'est lui qui a trouvé les moyens pour le Parti communiste de survivre et ensuite de prendre le pouvoir. Et c'est le Staline puisqu'il l'a exercé. Mais il y a deux choses qu'il faut ajouter. Un, avant Lénine, comme en Russie, en Chine, il y avait eu des gens très bien, hein, et pas seulement Sun Yat-sen. Et deux, le Staline chinois a eu beaucoup d'ennuis quand même. Hein. Peut-être plus que Staline n'en a eu en Union soviétique. Mao a été, c'est le sujet de mon livre, vraiment très très gêné, notamment par Liu Shaoqi. S'il y a quelqu'un que vraiment j'ai découvert, c'est Liu Shaoqi. Si vous voulez, au total, je vois un Mao assez démoniaque, et je vois un très grand communiste qui est Liu Shaoqi. Différent, et donc l'honneur était sauf d'une certaine façon. Ça n'était pas exactement le même empire, même si Mao s'y comportera comme un empereur.
Alors avant toute chose, pour que nous puissions tout à l'heure esquisser des comparaisons, des rapprochements, tout en marquant bien sûr des différences, je voudrais, Jean-Luc Domnac, que nous rappeliez quelle est, à grands traits, quelle est l'histoire de cette cité interdite qui a fait tant rêver, bah, qui remonte.
Ming, 15e siècle, c'est les Ming puis les Tsing, c'était le centre de l'empire.
Les Ming sont les Chinois, les Tsing les Mandchous.
Voilà, c'est ça. Les Ming, c'est la glorieuse Chine. Les Tsing, c'est la Chine qui déjà commence, enfin encore vigoureuse au tout début au moins, et qui est, c'est une dynastie mandchou, brutale au tout début, et qui ensuite se cynise complètement jusqu'au pire, hein, pour le pire aussi.
La construction remonte donc au début, aux premières décennies du 15e siècle. C'est cela, voilà, avec c'est un empereur ça. Fondateur qu'il faut saluer, qui s'appelait Yongle.
Voilà, le plaisir éternel.
Cet ensemble prend dès l'origine cet aspect de mystère, de protection d'un secret, le pouvoir n'étant pas séparable du secret.
Trois grandes caractéristiques. Le secret, le rituel, l'exemplaire. Le secret, c'est donc le lieu du pouvoir, c'est le lieu où réside la famille de l'empereur, c'est le lieu où tout est organisé pour lui, pour sa gloire. C'est un lieu un peu divin, la limite de la divinité, où en tout cas s'exerce toute une série de rites, rites qui ont un sens, des rites religieux, des rites autour de l'empereur, des rites auxquels sont appelés à participer les membres de la famille impériale, les eunuques qui jouent un rôle de serviteurs, que joueront un peu les secrétaires du Parti communiste finalement. La différence n'est pas très très grande, au moins sur le plan fonctionnel, si je puis dire.
Oui, arrêtons-nous là. Il y en a 20 000 eunuques
alors,
au
ils sont,
début.
Au total, il y a eu jusqu'à 30 000 fonctionnaires, si je puis dire. au moins une source qui me disait qu'il y a eu un moment où il y avait autant de fonctionnaires au palais impérial qu'il y en avait dans le reste de la Chine, puisque la caractéristique de l'administration chinoise a été d'être très légère et de fonctionner beaucoup par l'exemple, en mettant en évidence l'autonomie des différentes unités sociales.
Donc c'est un autre aspect, c'est l'exemplarité.
Alors voilà, il s'agit de donner l'exemple de l'harmonie parfaite, et ainsi que rayonne de l'empereur jusque aux différentes collectivités qui s'emboîtent les unes dans les autres, l'exemple d'un pouvoir grandiose et paternel, reposant, et qui lui-même inspire des grandes vertus morales à ceux qui sont au-dessous de lui, etc. Et cela va jusqu'à la famille, qui est la cellule de base de la société chinoise.
Vous rapprochiez un instant les eunuques des fonctionnaires. Est-ce que cette exemplarité de l'époque impériale se retrouve à l'époque Mao Tse-tung et jusqu'à aujourd'hui?
Dans un sens, la volonté d'exemplarité se retrouve. La réalité, non. Ou plutôt, je crois que la réalité n'était pas si exemplaire que cela déjà sous l'Empire, vous y faisiez allusion tout à l'heure, sous les communistes, c'est d'emblée une société inversée, une société, l'apparence et la réalité sont totalement contradictoires, sauf peut-être en ce qui concerne les jeux des enfants, disons. Alors ceux-là ne comprennent pas bien ce qui se passe. Mais d'emblée, on est dans un monde qui est très factionnalisé et dans lequel les différentes factions équilibrent largement le pouvoir de Mao Tse-tung. Alors c'est là qu'il y a probablement la plus grande différence. L'empereur était réellement quelqu'un qui pouvait, d'un geste, changer beaucoup de choses. Mao Tse-tung, d'emblée, doit manœuvrer. Et il doit manœuvrer parce que sa grande force se double d'une grande faiblesse. Sa force, il a eu les deux grandes idées qui ont permis au pouvoir communiste de survivre, puis de l'emporter. Survivre par les campagnes, en restant dans les campagnes et en y menant la guérilla, l'emporter en faisant semblant de lutter contre les Japonais, en laissant néanmoins les Japonais porter leur plus grand effort contre Chiang Kai-shek, et Chiang Kai-shek ainsi très affaibli, quand les Japonais s'en vont, est à la portée des communistes. Ça, Mao l'avait compris d'emblée. Et il avait compris d'emblée que, de la même façon que le communisme stalinien inspirait une vigueur militaire qui lui permettrait de l'emporter sur Hitler, de la même façon, lui-même, le communisme chinois et sa direction à lui, donnerait aux armées communistes une vigueur qui leur permettrait d'écraser des armées Kuomintang, des armées nationalistes, 10 fois plus nombreuses. Donc c'est ce qui s'est passé.
On ne s'éloigne pas tout à fait de l'idée d'exemplarité, puisque ce sont ces forces qu'il porte. Il y a un troisième aspect, vous disiez rituel.
Alors, le rituel, il y a un rituel qui est le rituel du pouvoir. Mais la grande différence, c'est que ce rituel et cette exemplarité sont beaucoup plus contredites dans la réalité par les luttes de factions. C'est ça la différence. Alors, pour le pays, tout le monde ne voit rien. Disons, dans l'ensemble de la Chine, tout le monde croit que c'est comme l'empereur et qu'il y a une vraie perfection au sommet. Mais, disons, les 2000 personnes importantes en Chine savent qu'il y a des factions tout en haut, que Mao ne peut pas tout faire, et que les vrais puissants sont 5 ou 6 personnages. Au début, il y a certainement Zhou Enlai, Liu Shaoqi, qui est vraiment l'homme de l'appareil, et puis 2 ou 3 autres, un économiste, le grand Chen Yun, etc.
Attardons-nous encore un bref instant sur la ritualisation, car au fond, à l'époque des empereurs, on est frappé par le caractère hiératique, répétitif, marqué par ce puissant ennui, semble-t-il, que les chroniqueurs, à certains moments, ne parviennent pas à dissimuler.
C'est le rôle des grandes cérémonies qui sont organisées sur la place Tiananmen, qui a été d'abord creusée dans les quartiers qui existaient auparavant, puis ensuite étendue, et notamment lors des grandes fêtes communistes, le 1er mai, le 1er octobre, etc. Ça, c'est le grand rituel.
Et qui vous paraît renvoyer à ces rituels de l'époque impériale.
En partie, en tout cas dans la population. Et puis Mao, qui est grand, a d'emblée su ne pas montrer ce qui n'était pas impérial chez lui. Par exemple, il n'a pratiquement jamais parlé en public. Il parlait mal, il parlait rounanais.
Tout à l'heure, on l'a entendu. Oui,
très franchement, je ne comprends qu'une phrase dans ce qu'il a dit. Le reste, c'est un sabir. On ne le comprenait pas. On ne comprenait pas.
Alors, lui, si vous ne comprenez pas, qui le comprendrait?
Vous êtes gentil. Mais en tout cas, donc il n'intervenait pas en public. Mais de façon très hiératique, il assistait au défilé, avait des vastes gestes lents comme ça, de la majesté. Il a très vite également appris à se comporter comme les empereurs se comportaient, avec des ordres très impérieux, très rapides, et il s'est comporté très vite comme un empereur.
En renvoyant, par